Et c'est l'heure de passer à une culture peut-être un petit peu plus reposante que les
Sur
extraits
ce.
musicaux que je vous impose. Et sous le doux regard du poulpe que vous nous amenez dans ce studio, les auditeurs n'en sauront pas plus. Bonsoir Léa, bonsoir Sarah.
Bonsoir,
bonsoir
Rémi.
Rémi. Alors, le poulpe s'appelle Madame.
Bonsoir Madame. C'est à vous, je vous en prie.
Bon, on va commencer avec Sarah. Sarah qui vient de me souffler à l'oreille une sorte de tautologie. L'Europe swing avec Europe. Mais qu'est-ce que tu entendais par là, Sarah ?
J'entends, ma chère Léa, du jazz. De magnifiques déhanchés de notes où le saxo et la peau cuivrée de l'orchestre du 369e régiment d'infanterie s'épousent, éclatèrent la semaine dernière à Nantes, d'après Le Monde, et surtout, surtout, d'après La Libre Belgique. Lisez ce journal, car mon ami Colin y écrit de jolis articles tout en musique. Mais revenons-en au 369e régiment d'infanterie, c'est-à-dire au Harlem Hellfighters, l'orchestre de ce régiment d'infanterie, et cessons enfin cette insupportable publicité non mensongère dont je fais tout le temps preuve. Il y a 100 ans, le roi du jazz, James Reese Europe, débarquait à Brest. C'est là qu'il enflamma la France, ou la carbonisa vu la couleur, avec sa musique déjà bien connue en Amérique. On ne dirait pas, mais derrière ces lunettes rondes d'un télo bobo et ce képi de lieutenant, notre coco était un arrangeur, compositeur, bref, un musicien avant d'être un mirlitaire. Comme quoi, le mirliton sonne parfois mieux que la trompette de guerre. On vient de me mettre Madame sur la tête. Notons que Europe avait créé en 1910 le premier syndicat de musiciens afro-américains, le Clef Club, enfin Clee Club, et que son orchestre symphonique de 125 musiciens, c'est quand même un chiffre, ce n'est pas 50, a été le premier orchestre noir américain à jouer au Carnegie Hall de New York en 1912. En somme, on a pionnier avant l'heure. Bon, ceci est un mauvais jeu de mots avec la marque électronique ou je ne sais trop quoi.
Et alors, quel type de jazz préférait-il ?
Je crois qu'il s'intéressait tout particulièrement au ragtime et à la musique populaire américaine. C'est très difficile, je vous l'assure, de se concentrer avec un poulpe sur la tête. Le ragtime, c'est cette musique un peu hésitante, chevrotante parfois, ou bien rutilante, qui oscille entre le parkour bien connu par les doigts et le doute. C'est à mi-chemin entre l'impro et la lecture de partitions. Quand j'étais en troisième, ouf, ça ne rajeunit pas nos auditeurs, ça, ni Marie, ni François-René, ma prof de musique nous avait expliqué qu'au sortir de l'esclavage, une partie des Noirs d'Amérique avait décidé de s'orienter vers la musique. Bah oui, ils avaient l'expérience du chant avec toutes ces balles de coton. Enfin, je plaisante. Certains avaient été domestiques dans de grandes familles où l'on apprenait, comme il convient, à jouer du piano. L'élégante réconciliation entre Noirs et Blanches. Et après avoir secoué les chaînes de l'esclavage, ils profitèrent de tous ces concertos privés pour exercer leurs propres menottes. Problème, la plupart de ces gens ne savaient pas lire et encore moins déchiffrer ce truc tout embrouillé qu'est une partition. Il s'agissait alors d'exercer son oreille pour ensuite retrouver les bons sons sur le clavier. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé, ou si vous êtes suffisamment alpha musico-bête pour ne pas avoir à le faire, à moins que vous ne soyez tout à fait bête, auquel cas on vous le pardonnera, ne vous en faites pas. Mais ce n'est pas toujours facile. Parfois les notes coulent de source, mais il arrive souvent qu'une hésitation survienne. C'est peut-être cette vulnérabilité en fait, cette fragilité enjouée, car on assume dans le ragtime, que j'apprécie. Quoi qu'il en soit, c'est sans doute une version de la genèse de ce type de musique, apparentée au jazz. Bon, il doit exister plusieurs mythologies dessus, et puis comme toute chose, ça a évolué ensuite.
Et alors pourquoi est-ce qu'on n'entend plus parler du roi du jazz, comme tu l'appelles ?
S'il permit au genre de faire danser les Européens sur la scène, il mourut au milieu d'autres étoiles. Alors je m'explique, parce que c'est très métaphorique tout ça. Lorsque James Reese Europe a lancé les premiers accords de la Marseillaise version Harlem Hellfighters, les Français se sont retrouvés stupéfiés, bâillonnés, ligotés. Oh oui ! Je voulais dire étonnés. Une telle reprise, ça se remarque. Lorsqu'il fut assassiné par un compagnon d'armes en 1919, James Reese Europe avait déjà lâché le cuivre des saxos pour un autre, celui des balles, malheureusement, et pas celle de coton. Ce qui n'avait pas empêché à d'autres icônes du jazz de saisir le saxo, eux, pour triompher de la musique des Blancs. Je précise qu'à cette époque, un des enjeux de ces rois du jazz fut quand même de trouver leur propre voix, leur musique à eux, sans être accusés de plagiat sur la musique blanche. Et vous connaissez peut-être Duke Ellington ? Il fait partie de ces géants qui ont conquis la scène musicale après Europe et ont sublimé un peu plus l'Europe.
Et alors Sarah, tu me disais que ça se passait à Nantes, dans tout ça ?
Oui, en fait, le concert en hommage se déroulait à Nantes ce lundi 12 février en compagnie de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, et des trois petites filles de James Reese Europe. Alors, je cite la plaque commémorative installée sur la scène du théâtre Grasselin de Nantes. Ici, le 12 février 1918, s'est joué le premier concert de jazz sur le sol européen, avec 40 musiciens et soldats d'exception qui ont réveillé, enfin qui ont éveillé plutôt l'Europe au jazz, cette musique qui fait parfois un peu plus fureur dans les salons que les testaments d'ex-égérie déshéritant leurs enfants.
Et je t'ai vu griffonner en toute hâte un truc sur les giboulées tout à l'heure, Sarah. Mais on n'est pas encore en mars. Ou alors, qu'est-ce que tu
Surtout
voulais dire
pas.
Est-ce que c'était un encodage scriptomaniaque?
Ah ben Léa, on ne se refait pas, j'adore ça. Non mais pourtant, ce n'était pas une de mes prophétisations divino sacerdo hiero visionero décalé. Non. Les giboulées, à mettre entre guillemets, exigent que l'on traverse la France de bout en bout afin de joindre l'Est. Après la côte, les goélands, pourquoi est-ce qu'on parle toujours des mouettes? Et les galettes, nous voici derrière les Vosges et leur célébrissime grès rose. Je sais que Transistor en apprécie la couleur. Cela se passe au TJP de Strasbourg, situé rue de la Breuvoir, un peu rue version, enfin un peu rue de la Soif version alsacienne, c'est-à-dire sans trop de changements, sinon la carte, des boissons. Léa, ne fais pas cette tête. Un ivrogne, c'est un ivrogne, qu'il soit à Rennes ou à Navarre. Cela ressemble grosso modo à une patate qui flanche de gauche à droite, déguenillée et vomisselée.
Oui, bon ça va. Et les giboulées alors?
Mais je vous explique. J'ai reçu il y a peu un charmant carnet jaune pétard dans ma boîte aux lettres. Pas une gueulante comme dans Harry Potter, mais un criard. Dessus était écrit, je cite, « Les giboulées, Biennale internationale 16/24 mars, Centre dramatique national TJP, 27 compagnies, 14 pays, 73 représentations, 13 lieux, espace, engras, corps, texte, marionnette, engras, objet, figure, son, matière, engras, image. » Fin de la citation. Le TJP, je vous en avais déjà parlé, c'est un théâtre assez original et très moderne. D'ailleurs, c'est peut-être parce qu'il est moderne qu'il est original. De nos jours, on a tendance à confondre les deux. Et il s'y joue parfois des pièces engagées. La dernière fois, c'était l'agonie solitaire et délirante d'une féministe avec les incroyables marionnettes d'une artiste d'un pays scandinave. Bah oui, hein, parce qu'on aime le Nord, c'est très très chic, comme le gratin de graines de beurre à cas butternut parsemé parcimonieusement de quinoa et de caroube du Pérou, les oiseaux meurent, d'après certains. Mais revenons-en au giboulé. D'ailleurs, c'était à 19h que commençait la soirée de présentation du festival, donc je ne pourrais que maigrement gloser puisque je suis ici et c'est pourquoi je fais plein de jeux de mots débiles. D'après mon papier jaune criard et donc remarquable, espérons qu'il en sera de même pour le festival, je veux dire pas criard, mais remarquable, l'enjeu est de faire se croiser différents traitements en fait, portés sur le corps au théâtre. Diverses écoles d'art se rencontreront donc en mars, le temps des giboulées, proposant chacune une manière de voir, d'expérimenter, de vivre son corps sur scène. Et cela passe surtout par l'intermédiaire de la marionnette. Dans une société robotisée comme la nôtre, quoi de plus inquiétant que ce corps automate, de ces gestes mécaniques que l'on finit par surprendre chez son voisin, Léa, ou chez soi, Sarah. Maintenant que les mots ne sont plus élégamment tracés à la main, mais tapés sur l'ordinateur comme mon script, que signifie le verbe? Je veux dire le verbe avec une majuscule. Moi aussi je joue sur la typographie. Le principe qui nous anime chacun. Et si les marionnettes étaient vivantes en fait? Ou nous invitaient tout simplement à mieux percevoir le monde qui nous entoure? La texture de ma chemise sur ma peau hérissée, le roulement des mots dans ma bouche, la saveur de l'air pollué et du riz quotidien. Car enfin, je veux bien, mais les marionnettes, ça n'a pas de système digestif. Mais j'en déduis d'ailleurs que le vivant se distingue par un système digestif. Si vous souhaitez euréquer comme moi, c'est-à-dire avoir une trouvaille, partez à l'est, rue de la Breuvoir. Parfois, c'est aussi dans un verre qu'on trouve la vérité.
Et j'ajoute que tout ça, ça se passe pas au TJP en fait, mais pas seulement, c'est aussi au Musée d'art contemporain, à l'Espace K, à Schittlingheim, etc., etc. Et alors Sarah, on n'a pas notre traditionnel coup d'œil sur la capitale ce soir?
Ah, oh, mais si, bien sûr. Mais voyons, enfin, je fais partie de ces gens qui retournent très souvent à Paris. Non, je plaisante. Mais j'ai croisé un ami dernièrement qui est complètement fou et passe sa vie de bar en bar ou de théâtre en théâtre. Un peu comme nous, en fait, Léa. Je me rends compte qu'on a une vie dissolue, en fait.
Ça va.
Mais écoute, il y a une bouteille de bière entre nous. C'est un peu mon phare culturel, cet ami. Celui, pas la bouteille, c'est celui qui met qu'il est intéressé par tel événement sur Facebook et du coup Facebook me le montre dans mon fil d'activité et du coup je me dis « Ah, je suis intéressée par tel événement » et du coup la plupart du temps, eh bien, je n'y vais pas. Là, honnêtement, je n'ai pas vu ce dont je vais vous parler, mais je suis intéressée sur Facebook. Il s'agit de Macbeth, dont nous avons parlé entre deux bouchées avec mon ami de Tacos, près du canal Saint-Martin, dont je vous recommande la vue d'ailleurs. Allez au Sol Semilla, ils vendent des poudres magiques pour que les bobos se sentent en forme. Bref, Macbeth, vous connaissez, bon, se fend pas trop la poire devant, et il paraît que là, la fin est particulièrement glauque. Ou plutôt sanglante, car vous savez que glauque désigne à l'origine un machin plus ou moins verdâtre et qu'a priori, si vous allez bien ou que vous n'êtes pas Shrek, votre sang est plutôt rouge. Bon, en l'occurrence, un monsieur se retrouve décollé, aka décapité à la fin.
Oui, le glauque est une couleur, Sarah. Et alors ce monsieur, est-ce qu'il a une particularité ?
Oui. En fait, c'est un effet très bien réussi d'ailleurs pour l'histoire du sang. Ben, ce monsieur, c'est Macbeth, il est joué par un acteur noir et c'est assez rare, il me semble, que l'on donne un premier rôle à un comédien noir pour une pièce aussi classique. Et ce n'est pas tout, c'est surtout un excellent comédien, à ce que m'en a soufflé la critique louisienne. Mon ami s'appelle Louis. Voilà, et la mise en scène est de Stéphane Braunschweig. Pardon pour la prononciation. Braunschweig, je ne sais pas. C'est jusqu'au 10 mars à l'Odéon et il paraît que c'est génial. Bon, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, mais restez sur nos ondes pour écouter nos ondes d'abord et ensuite parce que vous aurez un compte-rendu après les vacances. Bon, Léa, à ton tour maintenant là, de passer sous le couteau. Qu'est-ce que tu as fait d'intéressant à Lyon ?
Mais écoute, samedi, j'ai été voir une pierre.
Waouh, tu as des journées mouvementées.
Bah attends, c'était pas n'importe quelle pierre. C'est une pierre qui fait du son lorsqu'on la touche. Et puis, pas n'importe quel son. C'était les sons de Lyon. Bon, alors je te raconte un peu plus cette expérience. C'est un peu comme la première errance de Maé. Vous avez devant vous une carte de Lyon. Et quand vous effleurez la pierre, elle fait un son différent selon ses facettes et selon votre toucher. Alors au début, vous êtes un peu circonspect, vous y allez doucement et vous entendez quelques sirènes de police. Puis ensuite, bah, vous y allez plus franchement, vous la pressez plus fort et vous entendez les discussions des passants de plus en plus distinctement. Vous y allez avec les deux mains, les sons se mêlent, et tout en regardant la carte de Lyon, vous avez tout d'un coup le sentiment de vous y promener, donc par le bout des doigts et avec vos oreilles.
Alors j'imagine que les sirènes, c'était plutôt quand on appuyait sur Gerland, tout ça.
Mais non, on ne touche pas la carte, on touche seulement la pierre, on a la carte sous les yeux.
Pardon, et comment ça marche ?
Alors, quand on regarde la pierre, on n'y voit aucun capteur, enfin absolument rien qui nous indique le fonctionnement de cet objet. Alors bon, bah, j'ai demandé comment ça marchait. En fait, elle est enduite d'une substance qui capte tous les mouvements de la main et qui les transmet au système informatique qui est caché dans le socle. Ce dernier sélectionne des sons en fonction de la pression qui est exercée sur la pierre. Mais tout ça, quand on est devant l'œuvre, est tout à fait invisible. Donc ça procure une expérience assez magique, parce qu'on a la sensation de déshabiller la ville et de rentrer dans la plus grande intimité de sa musique, simplement en caressant une pierre brute.
Alors, si on remplaçait le V par un F, ce serait peut-être plus intéressant. Et qui a eu cette bonne idée ?
C'est Yang Tzu. Une artiste taïwanaise qui vit actuellement en Chine. Elle avait fait une résidence à Lyon en 2017 et c'est à ce moment-là qu'elle a recueilli les sons qu'on entend quand on touche cette œuvre, qui s'appelle Imprint of the City. Yan Tzu-Chang, en fait, elle travaille beaucoup sur les matières sonores et à partir de l'audio, elle explore les connexions entre expériences vécues et imaginaires. Alors les sons qu'elle choisit, ils font souvent comme des sortes de filets vers des zones un peu reléguées de notre mémoire. Ils viennent tirer quelque chose d'étrangement intime, comme si l'artiste était capable de sonder une strate collectivement refoulée, de souvenirs restés coincés dans une sorte de latence, qu'elle pouvait en faire émaner quelques bouffées au spectateur. Donc c'est avant tout des expériences, et des expériences qui peuvent laisser un peu fébrile.
Comme quand on déshabille la fille, par exemple. Et où est-ce qu'on peut aller voir l'œuvre dont tu parlais ?
Vous la trouverez au 11 quai de la Pêcherie, c'est au bord de la Saône, au niveau des torrents des taureaux à peu près. C'est dans la galerie BF15 pour une exposition collaborative qui s'appelle Stone. On peut aussi y voir une œuvre de Sarah Del Pino qui s'intéresse à la dimension organique de la Terre et propose d'écouter sa sonorité propre avec une vidéo qu'elle a choisi de placer au sol. On y voit aussi trois œuvres de Damien Fragnon qui a placé ici des fausses météorites et des vraies coordonnées GPS proposant aux spectateurs d'aller en imagination les retrouver.
Et est-ce que tout cela est organisé pour une raison ?
Oui, Sarah, et voici notre transition toute faite. Vous l'aurez remarqué, je vous parle beaucoup de sons ce soir. C'est que cette exposition joue le rôle de préface, en quelque sorte, pour la Biennale Musique en Scène, parce que le Lyonnais aime la Biennale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle Biennale ? On a un événement qui souhaite porter sur le devant de la scène la création musicale contemporaine.
C'est bien bizarre.
Atypique. Et alors, quel est l'imaginaire sonore des compositeurs de ce début du XXIe siècle ? Il semble en effet que leur son n'arrive finalement que rarement à nos oreilles. Alors si on lit un peu l'édito, il semble qu'on accuse encore le coup de l'implosion de ce qui était jusqu'au siècle dernier la référence en Occident, le système tonal. Difficile en effet pour nos oreilles un peu réac de s'en défaire. Pourtant, la balade peut valoir le coup. Car alors, du musical, on se déplace vers le sonore en général. Voici alors la brèche pour une myriade d'expérimentations, désormais vastement alimentées par l'électronique. Force est de constater qu'on travaille aujourd'hui sur ce champ sonore, un peu comme on travaillerait sur le champ visuel.
Ou de coton.
Au moment où ces deux espaces semblent donc plus que jamais se retrouver, on décide de marquer le coup, voire d'enfoncer le clou, en nous proposant des spectacles qui exploitent la proximité de nos cultures visuelles et auditives. Un programme pour prêter attention au corps dansant du musicien, au geste musical du danseur, tout cela en passant de la contrebasse au synthétiseur. Toutes les innovations sont permises, donc du saxophoniste aux yeux bandés à Beethoven interprété par un chœur de smartphone. Le spectateur est d'ailleurs convié à participer en téléchargeant l'application sur sa plateforme favorite. Encore une fois, pourquoi pas ?
Il giornalo radiofonico dell'amplificación.
Sur transistor.
Allez, olé, on chausse nos crampons et c'est parti pour un soir. Rebonsoir François René.
Et rebonsoir Rémi.